nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Jean Duchesne, nous vous recevons aujourd'hui, après le départ du pape Benoît XVI, pour essayer de mieux comprendre qui est Ratzinger, ou plus exactement, quelles sont les relations que le cardinal Ratzinger avait et a toujours avec la France. Alors pourquoi vous ? Parce que vous êtes professeur au lycée Condorcet et à Sainte-Marie-de-Neuilly, mais surtout, pour le point qui nous concerne, vous êtes l'un des trois fondateurs de la revue Communion, 74-75, avec Jean-Luc Marion et Rémi Brague. Et donc, à cette occasion-là, et dans le cadre de Communion, vous avez reçu depuis, vous m'avez dit, 34 ans, le cardinal Ratzinger. Et donc, on peut dire que vous êtes un de ceux qui, en France, le connaît le mieux. Et donc, il nous importait, considérant aussi qu'il est membre de l'Institut et qu'il a fait ici, au moment de sa visite à Paris, une visite à l'Institut. Donc, il nous importait de mieux comprendre quelles étaient, selon vous, les affinités qui ont l'air d'être assez fortes avec un certain nombre de théologiens et, de manière générale, avec la France. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce Ratzinger français qui est venu tout récemment sous le nom de Benoît XVI ?
Oui, la chose que l'on peut dire, c'est que le cardinal Ratzinger n'était pas plus à l'étranger quand il était à Paris que lorsqu'il est à Rome. Maintenant, depuis longtemps, d'abord comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et puis depuis quelques années comme pape. Une petite précision, les fondateurs de communion en France en 74-75 étaient non pas trois, mais quatre, puisqu'il y avait aussi le père Armogat. Il ne faut pas l'oublier.
Absolument, absolument.
Donc communion nous a permis de faire la connaissance du père Ratzinger, que nous connaissions déjà de réputation. Parce que certains de ses livres, dans le sillage du Concile, étaient parus en France. Et pour nous, qui avions, au lendemain du Concile, un peu plus de 20 ans, c'était des références auxquelles nous nous sommes accrochés avec joie et avec reconnaissance. Communion nous a permis de faire la connaissance du père Ratzinger, et nous avons été frappés tout d'abord par le contraste entre la modestie du personnage, son côté presque effacé, et puis, disons, la vigueur de sa pensée. Et il était, dans les réunions de communion, il était toujours assis à côté de Hans-Urs von Balthasar. Il ne prenait jamais la parole que lorsqu'il avait vraiment quelque chose à dire, et c'était toujours extrêmement pointu, pointé et remarquablement pertinent. Un homme qui ne parle pas pour ne rien dire. Je le connais depuis longtemps, mais je ne peux pas dire que je le connaisse bien. C'est quelqu'un qui est très, 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 très discret, très doux, très gentil, très aimable. Bon vivant aussi. Je crois qu'on n'a peut-être pas assez... Moi, je garde des souvenirs de repas avec le père Ratzinger à l'époque. Eh bien, on peut dire qu'il prenait plaisir à ce qu'il mangeait, qu'il levait le coude avec un certain plaisir. Voilà. Écoutez, donc, c'est apporté à son crédit.
Voilà.
Je pense.
Juste une demi-seconde avant de revenir effectivement sur cette affinité. Peut-on bien préciser la naissance de Communio en réaction, et donc ça permettra de mieux préciser effectivement les affinités peut-être du père Ratzinger à l'égard de la France, en réaction contre certaines dérives ou certaines, initiatives post-conciliaires. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ?
Oui, bien sûr, encore que le mot réaction soit un petit peu dangereux, puisqu'il y a un adjectif qui va avec et qui est réactionnaire. Je ne pense pas que c'était le cas. D'après les histoires que plusieurs témoins et participants m'ont racontées, donc le Communio est né un soir de réunion de la première commission théologique internationale. Elle avait commencé en 70, et donc ça devait être en 71. Le soir de cette réunion de la Commission théologique internationale, les Français qui étaient là, certains des Français, à savoir Daniel Lou, De Lubac et Bouillet, se sont retrouvés à dîner dans une trattoria romaine avec Ratzinger et Balthasar. Et c'est là que les Français ont exprimé une certaine frustration à l'égard de la revue qui existait, qui existe toujours, qui s'appelle Concilium. Ce qu'ils lui reprochaient, ce n'était pas des questions d'orientation. C'était plutôt des questions de mode de fonctionnement. D'accord. Autrement dit, ce qui les gênait, c'était que ce soit centralisé aux Pays-Bas. Et l'idée était que si on n'avait pas gagné grand-chose, à transférer le centre de Rome à Amsterdam.
D'accord.
Et d'autre part, il regrettait aussi que ce soit la même revue, exactement les mêmes articles, les mêmes textes, traduits dans diverses langues qui sont proposés à chaque pays. Il pensait que si le Concile avait apporté quelque chose, c'était précisément d'apporter une certaine autonomie à chaque église locale et qu'une revue de ce type, de réflexion théologique sur des sujets religieux, devait s'adapter au débat, au culturel de l'ère linguistique. Enfin, il y avait un troisième regret qui était que Concilium, tel que c'était, remplissait très bien sa fonction, mais c'était une revue de théologiens faite par des théologiens, des professeurs et doyens de facultés de théologie à travers le monde entier. Et que si le Concile avait signifié quelque chose, c'était pas de promouvoir les théologiens, mais de les ouvrir aux laïcs et de permettre à des théologiens laïcs, en faisant le pari qu'il en existait, de s'exprimer aussi. Donc voilà, c'était les trois besoins, si vous voulez, qui se sont fait jour. Et puis, à partir de cela, ce sont les Allemands qui ont été les plus prompts et qui ont, donc Balthasar et Ratzinger, avec un autre jeune théologien qui, à l'époque, était l'assistant de Karl Rahner, c'était le père Karl Lehmann, qui est devenu, depuis, archevêque de Mayence et cardinal et président de la conférence épiscopale allemande. Donc, ils ont trouvé un groupe de laïcs chrétiens, catholiques, qui avaient fait une revue depuis la Libération et qui s'appelait Hochland, et avec ces quatre laïcs, dont Hans Mayer, qui était le ministre de l'Éducation nationale de Bavière, qui était un grand ami de Ratzinger. Ils ont donc fait la revue Communio. D'accord. Et puis l'édition italienne a démarré la même année avec le mouvement Communion et Liberazione. Ensuite sont venues l'édition américaine, l'édition française. Il y a dû y avoir aujourd'hui une bonne douzaine d'éditions.
D'accord.
Alors, le père Ratzinger a collaboré régulièrement. Ouais. On peut d'ailleurs signaler à ce sujet un livre intéressant qui vient d'être publié dans la collection Communio par Parole et Silence et qui regroupe les articles que Ratzinger a publiés dans la revue depuis 72 ou 73 jusqu'à tout récemment, jusqu'à son élection au Pontificat suprême, et qui donne un bon exemple de ce que Ratzinger offrait et donnait. Et je dirais que quand on relit ces articles qui datent dans certaines dates d'il y a plus de 30 ans, et que l'on regarde aujourd'hui par exemple la locution qu'il a prononcée au Collège des Bernardins sur la culture, on s'aperçoit que finalement il n'a pas changé. Autrement dit, c'est toujours le même homme, c'est toujours le même intellectuel extrêmement attentif, précautionneux, brillant et profond. Et que donc, il n'a pas changé en devenant pape, il n'essaie pas de faire quelque chose qui, pour répondre à ce que les gens attendent du pape, il donne ce qu'il a, il donne ce qu'il peut donner, il fait ce qu'il fait le mieux. Et je crois que c'est merveilleux de voir en quelque sorte que ce n'est pas l'homme qui s'adapte à la fonction, mais bien la fonction qui s'adapte à l'homme.
Alors venons-en, si vous voulez, à cette familiarité du cardinal Ratzinger devenu Benoît XVI à l'égard de la culture française et d'un certain nombre de théologiens. Donc il est à la fois francophile et francophone, et nous avons pu entendre récemment encore un certain nombre d'entretiens qu'il a pu donner alors qu'il était encore cardinal Ratzinger, en français et avec un maniement de la langue absolument excellent. Donc quelle est, à votre avis, cette affinité, enfin ce lien profond qui unit...
Il ne m'a pas fait de confidence particulière à cet égard, je m'empresse de commencer par là, mais il est assez facile de comprendre en bavardant avec lui. Donc c'est un homme, c'est un universitaire, c'est un intellectuel, et c'est un intellectuel qui n'est pas honteux du tout et qui est persuadé que, d'une certaine manière, le monde est gouverné par des idées. C'est-à-dire que, consciemment ou non, nos comportements, nos choix sont dictés par des théorisations, par des idées. Et donc, pour lui, c'est le lieu essentiel où tout se joue. Et c'est son travail, et c'est son métier, et c'est aussi son charisme. Et donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jeune prêtre, il a commencé très tôt à s'intéresser à toutes les idées qui façonnaient la façon dont ses contemporains se comportaient. Et dans les auteurs qui lui semblaient avoir de l'influence, il y avait évidemment des Français. Aussi bien d'ailleurs des auteurs de romanciers chrétiens, la fameuse trilogie Peggy, Claudel, Mauriac, que aussi les théologiens. Mais que aussi les penseurs qui n'étaient pas chrétiens, qui avaient une grande influence à l'époque, notamment les existentialistes. Alors, cela explique, me semble-t-il, la façon dont le père Ratzinger, maintenant le pape Benoît XVI, s'exprime en français. Il parle comme un livre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas appris le français en suivant des cours de conversation, ni en allant acheter sa baguette, comme tout le monde, en venant passer ses vacances en France. Mais il a appris le français dans des livres. Et à la limite, son français quotidien, eh bien, c'est celui de Roquentin, c'est-à-dire celui des héros de l'interminable. Roman monumental de Sartre qui s'appelle Roquentin, c'est là qu'il a appris le français, ou le français courant. Mais il a beaucoup fréquenté donc tous les auteurs français du XXe siècle qui comptent. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui va se contenter d'une lecture de seconde main, d'un manuel, d'un article de presse, mais c'est quelqu'un qui, par réflexe universitaire, par honnêteté aussi fondamentalement, va aller voir à la source et lire dans le texte.
Il y a quand même cet événement un peu fondateur, enfin ce chaudron, disons, de Vatican II, durant lequel il a rencontré et admiré et lu, pour autant qu'il ne les ait pas lus avant, à la fois Congard, Danielou, de Lubac, qu'il reconnaît comme étant ses maîtres ou des théologiens français qu'il a particulièrement lus. Et il s'est dit lui-même, donc le cardinal Ratzinger, il s'est dit lui-même ami du père de Lubac pour l'avoir effectivement assez longtemps.
Je crois qu'il a confié effectivement avoir été frappé par l'accueil que lui faisait le père de Lubac. Il était surpris qu'un théologien qu'il respectait autant, qui était un... Je pense que mes amis et moi, nous avons eu la même impression que nous avons rencontré le père de Lubac pour la première fois. Nous l'avions lu, et nous le rencontrions enfin, et nous ne pouvions pas ne pas être très impressionnés. Mmh. Et j'imagine sans peine que le père Ratzinger, le jeune Joseph Ratzinger, a dû à l'époque éprouver le même sentiment. Et en même temps, être confondu par la gentillesse, l'accueil de Lubac, qui ne disait jamais à quelqu'un qu'il avait tort, mais qui lui expliquait pourquoi il avait encore plus raison qu'il ne le pensait.
Ce qui était
dans la part de Lubac aussi, faisait partie, disons, de ses qualités et de son charme de grand seigneur.
Mais ce qui veut dire que tous ces gens-là, il les a à la fois rencontrés au moment de Vatican II et à la fois dans le cadre...
Il les a retrouvés à la Commission théologique internationale.
Voilà. Et donc, tous ces gens-là, pourquoi eux, pourquoi des Français, pourquoi des théologiens français, c'était eux parmi d'autres, ou ils considéraient, ou ils considèrent toujours qu'il y a une spécificité, un rôle particulier de ces théologiens et de la culture française de manière générale, pour mieux comprendre à la fois le monde et mieux s'exprimer peut-être en théologie.
Oui, la preuve que c'est une bonne question, c'est que je n'ai pas la réponse.
D'accord.
Non, je n'étais pas là. Il est sûr, si vous voulez, d'après les sentiments que j'ai pu avoir, des confidences aussi que nous a fait alors un autre théologien qui avait participé au concile avant et après, mais pas pendant, c'est-à-dire le père Louis Bouillet, dont nous avons été très proches. Il y avait surtout, dans cette première commission théologique internationale, les Français et les Allemands. C'était une espèce de... il y avait quand même d'assez fortes personnalités, Danielou, de Lubac, Congard. Il y avait également le père Le Guillou. Et puis, donc, au niveau des Allemands, il y avait quand même Balthasar, Rahner, Ratzinger et Lehmann. Donc, ça faisait 8 personnes, et ces 8 personnes formaient en quelque sorte une majorité, et elles se comprenaient. Je pense que le père Ratzinger, par ailleurs, s'est toujours beaucoup intéressé aussi à ce qui se faisait en anglais. Il ne faut pas oublier qu'il parle admirablement français, mais je puis vous dire que son anglais est du même tonneau et a la même qualité. Je crois que beaucoup d'Américains sont d'accord pour dire que le pape parle anglais mieux qu'eux. Certainement un anglais beaucoup plus correct.
Oui, beaucoup plus livresque aussi, de la même manière.
Beaucoup plus châtié.
Voilà.
Mais donc, je ne pense donc qu'il y a un intérêt certain pour la France qui correspond, si vous voulez, à, de fait. Et je crois que les Français sont peut-être les derniers à s'en rendre compte ou à s'en souvenir. La France a joué un rôle important dans la préparation du Concile et dans sa mise en œuvre.
Parce qu'il est venu quand même, si on s'en tient aussi à sa biographie, il est venu souvent à Paris. Il a même passé un nombre de mois peut-être important. Enfin, je crois qu'il est venu étudier aussi à Paris un peu.
Quand il était plus jeune, oui.
Voilà, quand il était plus jeune. Donc cette familiarité avec les auteurs, avec la littérature dont vous parliez, elle est aussi...
La littérature et la philosophie.
Et la philosophie.
Et aussi en partie, quelques indications, ce qu'on appelle les sciences humaines.
Les sciences humaines, vous voulez dire des années 50, 60
70. Quand donner un exemple, quand un mouvement comme le structuralisme naît, quelqu'un comme Ratzinger, qui est un esprit curieux et ouvert, va voir. Alors qu'en France, beaucoup de gens ont pris position sans avoir lu.
D'accord, donc ce qui veut dire qu'il a toujours eu un œil, comme on pourrait imaginer, enfin, a toujours un œil ouvert sur ce qui se passait en France et sur à la fois les auteurs disons, qui était dans sa mouvance ou dans son intelligence, enfin dans sa compréhension intelligente de l'écriture, et on a parlé effectivement de Congar, d'Agnello et du père de Lubac, mais aussi sur tous les autres auteurs qui, d'une manière ou d'une autre, dans les sciences humaines...
Il ne me l'a pas dit, mais par exemple, si vous voulez, au cours de ces, mettons, 15 ou 20 dernières années, les quelques philosophes français dont on a pu parler, bah, parmi eux, il y a Derrida, je suis presque persuadé qu'il a été voir. Et qui ne s'est pas contenté de ce qu'on racontait dans les journaux, des petites bulles qui pouvaient remonter à la surface.
D'accord.
Donc on peut aller voir au plus profond, à la source.
Donc on peut considérer effectivement que, plus particulièrement sans doute que d'autres pays ou d'autres cultures, Benoît XVI est un ami de la France et un ami de certain nombre de théologiens et ou d'écrivains qui comptent ou ont compté.
Je crois que c'est profondément un Européen. Je ne pense pas que la France ait une place privilégiée, la France a une place importante, hein, en tant que le pays d'Europe continentale le plus important avec l'Allemagne. Mais il ne faut pas oublier qu'il vit depuis de nombreuses années en Italie, qu'il y a une très belle activité intellectuelle en Italie, qu'il se débrouille aussi bien en espagnol. Je pense que sont tout ceci et qu'il suit également ce qui se passe en Espagne. Ce qui est remarquable aussi pour un Allemand et même pour nous. Moi, je suis admiratif de la façon dont il a réussi à ingurgiter le polonais. La plupart d'entre nous avons beaucoup de mal avec le polonais. Soyons honnêtes. Mais confessons-le. Eh bien, Ratzinger a intégré le polonais. Alors, le fait que la philosophie allemande, de Max Scheler, entre autres, etc., ait joué un rôle en Pologne, qu'elle est influencée, Karol Wojtyla, qu'elle est donc façonnée d'une manière, sa pensée aide. Mais quand il va en Pologne, il parle polonais. Donc je crois que le cardinal est un ami de la France, mais dans la mesure, plus fondamentalement, plus profondément, il est européen. En tant que bavarois, il n'est pas seulement allemand, il est bavarois, et d'une certaine manière, c'est vrai, la Bavière est un des cœurs de l'Europe.
C'est comme ça du moins qu'il le comprend, lui. Jean Duchesne, merci beaucoup pour cet éclairage qui nous permet de mieux comprendre à la fois pourquoi effectivement le cardinal Ratzinger a accepté d'être membre correspondant de l'Institut, d'une part, et deuxièmement, cette histoire ancienne, qui n'est pas exclusive, disiez-vous, avec la France et ses éminents théologiens, ce qui nous permet de mieux comprendre le voyage du pape auquel nous venons d'assister, et donc de pouvoir poursuivre son œuvre dans la continuité que vous signalez. Et effectivement, vous avez raison de signaler que les articles, et nous l'indiquerons sur le site, que les articles donc du cardinal Ratzinger viennent d'être publiés, les articles publiés dans Communio viennent
d'être... Une première partie, il y aura un deuxième volume.
Absolument, en deux volumes, premier maintenant, et puis le deuxième qui paraîtra peut-être l'année prochaine ou dans deux ans. Donc l'année prochaine. Voilà.
Dans quelques mois.
Eh bien, écoutez, Jean Duchesne, merci beaucoup. Et donc, cet entretien nous a permis de mieux comprendre ce pape européen et français à la fois. Merci.